Je suis en compagnie de Christelle Dabos, l'auteur de La Passe Miroir, ici et seulement ici, et bientôt Nous, qui sortira le 7 novembre, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, bonjour, bonjour. C'est bien le 7 novembre, effectivement, pour Nous.
J'ai excessivement hâte qu'il sorte.
J'ai hâte aussi. Je m'appelle Christelle Dabos, j'ai démarré dans la sphère littéraire avec la sortie du premier tome de La Passe Miroir chez Gallimard Jeunesse. C'était à l'occasion du concours premier roman, c'était en 2012. Il y a Ici et seulement ici qui est paru en avril 2023. Et donc, il y a maintenant, toujours chez Gallimard Jeunesse, Nous, qui se profile pour le 7 novembre de cette année. J'ai aussi sorti, mais ce n'est pas un roman, un essai sur l'écriture et l'imagination prend feu aux éditions Le Robert, sachant que ça a commencé un petit peu par mes débuts déjà en tant que lectrice, comment j'étais amenée vers les livres, comment j'ai basculé du côté de l'écriture, puis comment j'ai basculé du côté de l'édition. Là, je pouvais un peu maîtriser la façon de me raconter, donc c'est un exercice finalement très intéressant, surtout qu'au fur et à mesure, je me suis rappelée de tonnes de choses que j'avais complètement oubliées. On remonte ses propres strates géologiques.
Vous êtes aussi une archéologue, en fait.
Ah, ça, ben voilà, mon côté Indiana Jones qui s'accomplit enfin. bascule dans l'écriture. Alors, je n'ai pas forcément dans mon entourage beaucoup d'écrivains, en tout cas maintenant plus qu'à l'époque, mais en tout cas dans ma famille, moi c'est plutôt des musiciens. J'étais un petit peu le vilain petit canard. C'est vraiment la musique qu'on n'a pas pris sur moi. Alors je suis mélomane, mais je pense que je ne suis pas musicienne. La pratique d'un instrument, ça ne marchait pas avec moi. Pour autant, je ne me suis pas mise à écrire dès la prime jeunesse. Quand je discute avec d'autres auteurs, je me rends compte que très souvent, pour eux, c'était une évidence dès l'enfance, qu'ils étaient faits pour ça. Et moi, pas du tout. Je ne me suis pas posé la question de l'écriture. Par contre, ce que j'ai toujours été, c'est une grande rêveuse. Donc, très très tôt, j'ai commencé vraiment à me faire des petites histoires dans ma tête. Alors, très souvent, ce n'était pas des histoires originales du tout. C'était souvent tiré du dessin animé que je venais de voir à la télévision. Et en fait, je faisais dans ma tête de la fanfiction sans le savoir. Et je me rejouais comme ça des épisodes où je mettais des variations, je me propulsais moi dans l'histoire parce que j'avais vraiment envie de vivre ma propre aventure. Et j'ai grandi ainsi. Puis après, je suis rentrée dans l'adolescence et ça ne m'a pas quittée. D'ailleurs, c'est ce qui me faisait très très peur. Je me suis dit, à mon avis, devenir adulte, c'est le jour où ça, je ne pourrais plus le faire. Et ça me terrifiait. Et ça ne s'est pas produit. Jamais eu d'interruption de trucs. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai glissé dans la vie de jeune adulte. Et à ce moment-là, je n'avais toujours rien écrit. J'étais toujours dans mon monde. Et j'ai une amie qui, elle, a tout de suite pressenti que j'étais faite pour ça, qui m'a dit « Toi, t'es faite pour écrire ». Et elle s'est mise à me lancer des challenges d'écriture avec une page vierge, avec juste un titre. Elle me disait « Imagine l'histoire qui va avec le titre ». Alors, soit cette personne est extrêmement, on va dire, intuitive, soit je suis très influençable, mais ça a été pour moi le déclic. Alors, pas forcément sur le tout premier texte, parce qu'au début, j'essaie de la faire rire. Donc, j'étais un petit peu dans le rôle du clown qui essaye un peu d'amuser la galerie. Et à un moment donné, elle m'a soumis un titre, c'était « Le palais magique ». Et là, donc, je me suis dit « Mince, il n'y a rien de drôle qui me vient ». Donc j'ai dû réfléchir un petit peu, j'ai commencé à écrire une histoire qui du coup n'était pas spécialement marrante, mais c'est la première fois que je commençais à faire l'expérience de ce qui se produit. Je pense que ça c'est le fameux déclic d'écriture. Ce qui se passe c'est que lorsqu'il y a une sorte de dialogue qui se met en place entre soi et une autre partie de soi dont on n'avait absolument pas conscience jusqu'à ce qu'elle émerge dans l'écriture. Et ça, quand on l'a vécu, alors là, c'est les mêmes symptômes que, je pense, que tomber amoureux. C'est on commence à trembler, on commence à voir, j'avais des suées, j'étais vraiment dans un état second. Et lorsque j'étais en train d'écrire sur cette feuille-là, quand mes parents m'ont appelé pour manger, j'étais mauvaise à table. Hein. J'étais aigrie, ils m'avaient coupé dans mon acte d'écriture, et, j'étais de mauvaise humeur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, ça, je pense, quand on en a fait l'expérience, on ne s'arrête plus.
Mais c'est incroyable comme histoire.
Alors moi, j'ai une pensée toute spéciale pour cette amie, elle fait toujours partie de mon paysage aujourd'hui. J'ai toujours une pensée pour elle. Et en plus, c'est vrai que chez moi, l'amitié et l'écriture ont souvent sont deux dynamiques qui se sont beaucoup nourries. Parce qu'après l'étape suivante, quand j'écris ce petit texte, il faisait 6 pages. Hein, j'ai dit jamais j'écrirai plus que ça. Et après ça, bah, j'avais envie d'écrire encore et encore, mais sauf que ça prenait, j'avais plus d'inspiration. Je me suis dit, j'ai envie, et il n'y avait rien qui venait. Et c'est l'époque où, deuxième étape, j'ai découvert le monde de la fanfiction. C'était l'époque ancestrale, où c'était le premier Harry Potter qui était sorti au cinéma. Mm-hmm. Et moi, je ne savais pas que c'était des livres. Pour moi, c'était d'abord un film. Et je suis tombée amoureuse de Alan Rickman, dans le rôle du professeur Rogue. C'était le personnage que j'avais envie de suivre dans Harry Potter. Et il y avait le forum de la Warner Bros. Et là-dessus, je me suis retrouvée avec une seule personne qui était, comme moi, mordue de Rogue et qui écrivait des fanfictions. Je ne savais même pas que c'était possible. Et en fait, je me suis rendue compte ce jour-là que ce que je faisais dans ma tête depuis l'enfance, c'était ça. Et je me suis lancée aussi dans l'écriture de ma propre fanfiction. Et là, ça m'a débloqué l'écriture fluff parce que je l'avais intitulée Petite Histoire. Et 200 pages plus tard, je me suis dit, je vais peut-être changer de titre parce que ce n'est qu'une petite histoire. Ça m'a débloqué pour l'écriture, on va dire, à long terme. Et alors, pour l'anecdote, à l'époque, je vivais à Cannes. Cette personne avec qui j'étais en correspondance était belge. Maintenant, c'est ma voisine.
Ah ouais ?
J'y allais m'installer en Belgique. On vit dans la même rue toutes les deux. Et pour l'anecdote, maintenant que je suis publiée, elle est publiée elle aussi. Donc toutes les deux, elle s'appelle Virginie Decamp.
Incroyable.
Elle est aussi publiée. L'étape suivante, c'est toujours en rapport avec l'amitié, c'est que après j'ai eu un souci de santé qui m'est tombé dessus 2 ans après mon installation en Belgique. Et j'étais opérée et tout, et là je ne sortais plus beaucoup de chez moi, donc je me suis réfugiée un petit peu sur internet pour continuer. C'est l'époque où je venais de commencer, le début de la passe miroir, toute première version. Mmh. Et je cherchais sur internet un endroit où je pourrais partager mon texte avec d'autres personnes, j'avais vraiment besoin d'établir un lien social puisque je ne sortais plus beaucoup de la maison. Et je suis tombée sur une petite communauté d'auteurs en ligne qui s'appelle Plume d'Argent. À l'époque c'était 40 membres, aujourd'hui il y en a plus de 5000.
Ah ouais.
Mais à l'époque, c'était vraiment un petit coin de web. Et ce sont vraiment devenus des amis avec qui j'ai pu faire grandir la passe miroir, bénéficier de leurs conseils. Et c'est grâce à eux que j'ai entendu parler du concours de Gagner ma jeunesse. Sinon, je serais passée complètement à côté.
Okay.
Et c'est eux qui m'ont encouragée à participer au concours.
Comme vous dites, l'amitié et l'écriture, c'est hyper relié dans votre parcours, quoi.
Oui, vraiment.
Avoir les gens qui nous soutiennent derrière comme ça, savoir qu'ils sont prêts à être là pour nous, c'est super.
Je pense que j'ai eu beaucoup de bonnes étoiles dans ma vie, qui fait que de moi-même, j'avais beaucoup de peur. J'avais vraiment peur, je ne voulais pas participer au concours, ça me faisait extrêmement peur, non pas d'échouer, j'avais peur de réussir, j'avais peur de me laisser une chance d'être publiée et que ça me sorte de ma petite routine dans laquelle j'étais, qui était très confortable, très anonyme. Et en fait, je pense que j'avais peur d'être exposée, moi, en tant que personne, quoi. Je me suis dit, être publiée, c'est perdre complètement le contrôle de ça. Et moi, ça m'a créé une dynamique de relation exponentielle d'être publiée. Au contraire, j'ai la chance d'avoir beaucoup de... J'ai fait vraiment beaucoup de très belles rencontres, des gens qui comptent beaucoup pour moi aujourd'hui. Je ne les aurais pas connus si je n'avais pas été publiée.
Ça me donne l'impression d'un parcours assez doux et assez bienveillant.
Ben, j'ai eu cette chance.
Du coup, mis à part l'amitié, parce que vous avez déjà répondu, mais qu'est-ce que l'écriture vous a apporté et qu'est-ce qu'elle vous apporte toujours ?
Ah oui, alors là, c'est j'en parlais un peu tout à l'heure, ça va paraître égoïste la façon dont je vais le dire, mais l'écriture est avant tout un acte personnel. Je ne me pose pas la question du lecteur au moment où je commence à écrire une histoire. Le lecteur intervient, on va dire, dans un deuxième temps. Mais la première personne avec qui ça se passe, c'est moi-même. Et généralement, j'analyse ça après coup parce que sur le moment, je ne me rendais pas compte, je n'étais pas conscient. Mais je pense que c'est lorsqu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas résolu, ça peut être n'importe une problématique, on va dire. Je passe par l'écriture et par tout un univers que je vais mettre en place avec des personnages pour traiter de cette problématique-là. Alors, typiquement avec la passe miroir, c'était le thème de l'apparence. Moi, c'était vraiment le problème avec le rapport que je pouvais moi-même avoir avec ma propre image. Et bien là, ça va avec cette histoire-là. On a bien fait le tour de la question avec Ophélie,
effectivement.
mon héroïne.
Et Dieu.
Et bien voilà, on a fait un chemin toutes les deux. Moi, ça m'a vraiment, au moment où j'ai terminé l'histoire, j'ai vraiment eu l'impression d'être venue au bout d'un processus.
Oui, c'est vrai, l'apparence, je relisais certaines FAQ que vous avez pu faire sur votre site.
Ah oui, et oui, j'en faisais à l'époque beaucoup.
C'était trop bien.
Là, j'en refasse.
Du coup, j'ai vu une FAQ que je crois que j'avais jamais vue, c'est où les personnages ils sont dessinés Ils répondent aux questions. Ophélie, elle dit « j'aime mon prénom », mais c'est vrai qu'on m'appelle jamais comme ça.
Oui, parce que le nombre de fois dans l'histoire où finalement elle est amenée à porter un autre prénom que le sien, j'ai perdu le compte au bout d'un moment, je me suis dit « mais oh Christelle, il y a quelque chose avec ça ». Et typiquement aussi, la thématique de la mémoire. Ça revient dans presque tout ce que j'écris systématiquement. La première fanfiction que j'avais écrite, par exemple, sur Rogue, y avait un personnage, le personnage principal que j'avais créé, était amnésique. J'écris une deuxième histoire avant que la passe miroir, une histoire qui restera dans les tiroirs. Le personnage ne se rappelait plus de son enfance.
D'accord.
Et c'est l'histoire d'une humanité qui avait oublié son passé. Et ça, c'est revenu encore dans la passe miroir, la thématique de la mémoire individuelle et collective. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça revient toujours.
Ben oui, je crois me souvenir un peu dans Ici et seulement ici aussi, il y en a un petit peu.
Oui, tout à fait. Dans Ici et seulement ici, où là, c'est vraiment du réalisme magique. Je ne prononce pas le mot harcèlement une seule fois de toute l'histoire, mais bon, je pense que c'est quand même ça dont il est question. C'est pareil, hein, je pense que j'avais quelque chose à exorciser et qui s'est passé par l'écriture de ce roman-là. Et effectivement, dans ce type d'univers, hein, dans ces cours de récréation, les gens ont la mémoire très courte. Voilà, il y a des gens qui, une fois qu'ils sortent de leur vie, ils ne se rappellent plus, quoi. Les gens tombent dans l'oubli.
Comment vous vient votre inspiration et comment gérez-vous les idées quand elles arrivent? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous enregistrez?
L'inspiration est un phénomène extrêmement mystérieux.
Oui.
Donc, la grande question, c'est de se dire, mais comment la provoquer? Ce qui s'est presque toujours produit pour moi, c'est que c'est pas moi qui suis allée à la recherche d'une idée, c'est l'idée qui m'est tombée dessus. Donc, c'est systématiquement un truc qui, tout d'un coup, c'est une évidence. Il y a un instant, ça y était pas. L'instant d'après, c'est là. Et c'est très présent. Et c'est de dire, waouh, il y a un truc qui veut absolument se raconter par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui fait l'apparition? Généralement, c'est l'idée fondatrice, on va dire. C'est vraiment l'idée, le noyau dur à partir duquel toute l'histoire va se cristalliser et se raconter. Ce processus-là, alors j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ça apparaît ou pas? Je pense que la seule constante que j'ai vraiment pu établir, c'est que généralement ça se produit, c'est quand je suis dans un état de... Je suis très réceptive, c'est-à-dire que j'ai mon mental qui se calme, j'ai pas une sorte de suractivité mentale, je suis très silencieuse mentalement, je suis très détendue physiquement, et c'est comme si ça m'arrivait par derrière. Quoi. J'ai l'impression que c'est comme un boomerang qui arrive par derrière et qui rentre, et d'un coup, je dis, ouf, il y a un truc qui vient de me traverser, et c'est ça. J'ai l'impression que ça ne se provoque pas, en tout cas pas volontairement, mais on peut créer les conditions pour faire en sorte que ça arrive. Mais ces conditions-là, il faut vraiment être extrêmement, en tout cas pour moi, très, très dans la détente. Et généralement, cette idée, je pense que c'est le fruit de tout un processus qui s'est fait en arrière-plan, mais dont je n'avais pas conscience. On va dire que c'est des choses que j'ai, des œuvres que j'ai vues, des expériences que j'ai vécues, et tout se mélange, et puis tout d'un coup, c'est le fruit de ce mélange qui va débarquer sous forme de, on va dire, une idée clé. Et après, y a toute la partie, cette idée, il faut maintenant la développer et en faire une histoire, avec un début, des péripéties, un dénouement, des personnages, et donc tout ça, là, il y a un peu plus de mental qui commence à se mettre en place pour ériger ça. Alors chez moi, la meilleure façon, enfin moi, la méthode qui me convient toujours le mieux, c'est de parler à voix haute. Alors c'est ce que j'appelle l'auto-brainstorming. Je fais un brainstorming toute seule avec moi-même et je parle et je fais des 100 pas dans mon salon et je débobine, je déroule et généralement ça fait une sorte de maïotique à la Socrate où je finis par accoucher de quelque chose. Et ça généralement, ça marche très très bien. Le fait de parler fait que ça engrange des dynamiques et une idée en entraîne une autre, et je commence à avoir quelque chose qui se met en place. Et quand je commence à avoir beaucoup beaucoup de choses, là généralement, je me précipite de tout noter par écrit pour me dire là, ça, voilà, j'ai un trop plein maintenant, il faut vraiment que je le note avant d'avoir. Enfin, j'ai peur d'oublier, quoi, de me dire il y a tellement d'éléments maintenant. Donc généralement, je les jette sur. Pas sur papier parce que j'écris pas à la main, j'écris très mal à la main, mais moi c'est sur ordinateur.
Oui, ben ça c'était une de mes futures questions, donc vous avez répondu.
J'ai anticipé. Ouais. Depuis qu'il y a l'invention du premier ordinateur qui a pu rentrer dans les maisons, je me suis dit cette invention est miraculeuse, je vais enfin pouvoir mettre pas. Vraiment, et même avant il y avait des machines à écrire, hein, je me suis dit heureusement que ça existe, parce que moi vraiment écrire à la main, c'est pas du tout mon... Je suis pas à l'aise avec ça.
Ok.
Donc, moi le clavier, c'est mon instrument de musique à moi en fait, le clavier. Et alors là maintenant, depuis quelques années, je passe par un logiciel d'écriture qui s'appelle Scrivener et ça m'aide beaucoup à organiser mes idées. C'est une sorte de tableau de liège où on peut mettre on peut créer une arborescence en fait. Donc ça aide énormément à structurer ses idées et ses pensées. Donc depuis que j'ai ça, j'avoue que ça m'aide beaucoup pour j'ai d'abord une sorte de fichier que j'appelle en vrac. Là, je vais mettre toutes mes idées qui me viennent. Puis après, je commence à les trier pour me dire, ça, c'est plutôt des idées qui sont propres à l'univers. Ça, c'est des idées par rapport au personnage. Et je commence comme ça, moi, pour y voir un peu plus clair. Je dis, c'est des idées, typiquement, c'est plutôt pour le dénouement, plutôt pour la fin, c'est des grandes révélations. Ça, c'est par contre des idées, il faut que je les mette dès le début de l'histoire. Donc, je commence après à faire un petit tri pour moi m'y retrouver, quoi. Mais généralement, ce processus-là, j'attends pas d'avoir un plan, de A à Z prédéfini. Parce qu'il y a vraiment l'impatience de se mettre à écrire. Donc généralement, quand j'ai suffisamment d'idées pour me dire, j'ai un truc qui est assez stable, j'ai des visions très précises des premières scènes de l'histoire, je vois vers quoi je me dirige, je vois même les grandes étapes, ça me suffit, après je me lance. Hein. Je n'attends pas de maîtriser tout de A à Z, surtout que j'ai remarqué que l'écriture, c'est un matériau très vivant, et que j'avais déjà essayé de faire l'expérience de faire un plan détaillé, c'était pour le tome 2 de La Passe Miroir, quand j'ai été publiée, j'ai fait un résumé, chapitre par chapitre, du tome 2, et ça m'a complètement bloquée. Et je pense que j'ai besoin d'avoir une marge d'improvisation, parce que l'écriture, il y a des petits moments d'autonomie, j'ai même envie de dire des petits instants de grâce, où tout d'un coup, on est le spectateur de ce qui est en train de s'écrire, on n'est plus le contrôlant, il y a un truc qui est en train de s'écrire et nous on assiste à la chose, quoi. Et tout ce qui se passe dans ces moments-là, c'est ce qui a le plus de sens. Généralement, c'est toujours, on va retravailler le texte pour beaucoup de choses, mais ces moments-là, généralement, on n'y retouche jamais.
Est-ce que quand même vous connaissez le dénouement de l'histoire? Est-ce que vous connaissez la fin du tome avant d'écrire?
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mettre en place parce que je me rends compte que ça fait gagner énormément de temps. Je ne l'avais pas fait sur mes tout premiers projets. Quand je me suis mise à écrire à mes tout débuts, je ne savais pas ce qui se passait d'une page à l'autre.
Mm-mm.
J'étais toujours dans l'improvisation la plus totale. Et ce qui en a résulté, c'est que ça se ressent au niveau de l'histoire, qui prend une direction, puis une autre, puis encore une autre. Et on voit que... l'avantage, c'est que le lecteur ne sait pas du tout vers quoi ça mène, parce que l'auteur non plus. Donc, il y a un côté un peu imprévisible, mais ça se sent. Alors que lorsque l'auteur sait vers quoi on se dirige, il peut quand même sentir le lecteur. Hein. C'est quand même possible.
Mm-mm.
Mais je pense que le lecteur le sent un peu plus, et du coup, il rentre là-dedans comme il se met dans un grand 8. Il se met dans son petit wagonnet, là. Et puis après, il se laisse propulser sur les rails de l'histoire, quoi. Moi, je me rends compte que c'est bien plus intéressant pour moi d'avoir déjà au moins les réponses aux grandes questions que l'histoire soulève.
Mmh.
Après, ça ne veut pas dire que j'aurais pas forcément une vision, on va dire, très stable de la façon dont ça va exactement se conclure et quel sera le sort des personnages, des différents personnages, ça je ne le sais pas, jusque très tard dans l'histoire. Typiquement, par exemple, pour La Passe Miroir, et je précise que je ne divulgage rien, mais pour le dernier tome, au moment où j'ai commencé à écrire le dernier tome, je ne savais pas encore comment l'histoire allait se terminer.
D'accord.
Je savais vers quoi je me dirigeais, mais je n'avais pas vraiment d'idée vraiment précise du grand dénouement qui allait quand même me dire que ça va être quoi vraiment, finalement, la grande conclusion de cette histoire-là. Et je me suis vraiment coupée de tous les réseaux sociaux. J'ai fait le sous-marin pendant un mois pour le savoir, parce que je me suis dit comme je fais des dédicaces, que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai les lecteurs qui me font part de leurs théories, qui me disent eux de leurs attentes, ce qu'ils veulent. Et je me suis dit, je dois absolument pas me laisser influencer. Il faut que je sache moi la façon, quelle est la conclusion qui pour moi a le plus de sens.
Mm-hmm.
Donc voilà, là j'ai dû vraiment, je me suis dit, il faut vraiment que... Et d'ailleurs, ça a été une évidence, apparemment je me suis rendue disponible pour ça, tout d'un coup, j'ai eu cette fameuse idée qui m'est tombée dessus. J'ai dit, oh, mais oui, c'est ça la conclusion. Et en plus, ça avait d'autant plus de sens que c'est un rêve que j'avais fait au tout début, à l'époque où j'écrivais la première version de La Passe Miroir, que j'étais pas publiée. J'ai dit, mais je la connaissais déjà, ma conclusion. C'est juste que j'avais oublié.
Vous l'aviez
donc,
rêvé
De quoi?
Vous l'aviez rêvé, la conclusion?
Oui, alors oui, ça c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, mais je suis assez connectée aux rêves. J'ai tendance à rêver beaucoup, beaucoup la nuit. Et très souvent, le processus des rêves interfère avec l'écriture.
Oui, ça se comprend.
Voilà, donc, et effectivement, j'avais rêvé. Alors, je ne dis pas de la conclusion complète, mais on va dire de la destinée des personnages. J'avais déjà fait un rêve par rapport à ça.
Ok.
Donc, là, je m'en suis rappelée. J'ai dit, mais c'est vrai. Et là, d'un coup, il y a une sorte d'alignement. J'ai dit, ok, c'est ça la conclusion.
Ah, ça, c'est très stylé, très intéressant que vous écoutiez vos rêves comme ça. Moi, ça m'arrive aussi. Enfin, il y a des fois, je rêve et il y a des scénarios de rêve. Je me dis, mais ça, je le note parce que...
Parce que, honnête, je pense que ça se joue à un autre niveau, parce que justement, c'est pas, je pense que ça se joue pas au même niveau du cerveau. Et on est déjà, c'est bien plus désinhibé, hein, lorsqu'on rêve.
Oui, effectivement.
Et puis, il y a des choses, mais vraiment, parfois on se dit, mais c'est moi qui ai créé ça dans ce scénario-là dans mon rêve, tellement ça, c'est improbable. Mais ça fait un matériau hyper intéressant.
Comment personnellement, vous percevez l'inspiration et la créativité? Comment est-ce que vous la vivez?
Alors, si c'est sur le plan émotionnel, généralement, on va dire la plupart du temps, c'est très joyeux. Vraiment, lorsque je suis dans un processus où je sens justement, il y a l'inspiration, il y a les idées, il y a la création, c'est un acte qui est fondamentalement joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phases où c'est douloureux. Donc, généralement, on va dire que quand tout est très fluide, c'est extrêmement joyeux. Et lorsque c'est un petit peu moins fluide et qu'on sent que, y a des jours avec et des jours sans, et il y a des jours où vraiment, c'est parfois, c'est pas tant qu'on n'a pas les idées qu'on ne sait pas comment les mettre en mots. Et parfois, on va réécrire en boucle la même scène et se dire toujours que c'est pas ça. Donc, il y a des moments qui sont un peu plus frustrants. Et lorsque ça peut être des petits passages provisoires, hein, juste sur une journée, et parfois ça peut s'inscrire dans la durée. Une journée, puis une autre, puis une autre, puis ça devient des semaines, et parfois ça peut être plus long encore. Donc là, c'est ce que j'appelle les traversées du désert. Des moments où là, vraiment, on n'y arrive pas. Et lorsqu'on commence à rentrer dans ce processus-là, on finit par un peu perdre confiance en soi, en ses capacités, on commence à beaucoup douter, non seulement sur ce qui est encore à écrire, mais sur ce qui a déjà été écrit. Là, ça peut devenir un peu souffrant. Donc, généralement, quand vraiment ça commence à se mettre en place, le mieux, c'est de lâcher prise et de faire quelque chose d'autre, vraiment de se lâcher un peu la grappe et de dire, tant pis. Je mets l'écriture de côté pour le moment et il faut vraiment juste que je fasse autre chose.
Ouais.
Et généralement, ça fonctionne. Hein, le fait de se laisser un peu tranquille parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on commence à se contracter physiquement, mentalement, sur tous les plans. Et la contraction ne fait pas beaucoup de bien à l'inspiration. Donc, il faut recréer de la détente pour qu'à nouveau ça circule bien. Et mes fameux auto-brainstorming, généralement, ça aussi, ça aide. Lorsque j'ai des moments où je sens que ça grippe un petit peu, c'est que je me dis, ça m'est arrivé souvent sur la place miroir. Pour les personnes qui ne connaissent pas la place miroir, il y a un personnage qui s'appelle Thorn, qui n'est pas extrêmement facile à cerner, même pour l'autrice. Le nombre de fois où j'ai dit, ok, stop, brainstorming, il faut que je te parle. Et vraiment, il y a des fois, je ne parlais qu'à lui, parce que j'ai dit, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, et tu me bloques tout, et tu me plombes les scènes à chaque fois que tu rentres. J'ai l'impression que j'ai une chape de plomb qui s'abat sur mes doigts, sur le clavier. Essaye de sourire, je ne sais pas, mais vraiment, fais quelque chose, parce que... Et vraiment, il y a des moments où j'ai remonté les bretelles, parce que... voilà. généralement, ça finit toujours par aboutir à... Enfin, c'est ces séances où je parle, notamment avec les personnages. On finit généralement par arriver à un compromis. On arrive à une solution, on va dire.
C'est assez rigolo que vous parliez de Thorn, parce que c'est assez drôle de se dire que c'est lui qui bloque.
Il ne sourit pas beaucoup.
Il ne sourit pas beaucoup, effectivement. Le world building, la création d'univers, peut être très compliqué à réaliser selon ce qu'on écrit, et surtout quand c'est des univers qui ressemblent très peu à notre réalité à nous. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour créer les univers où se déroulent vos histoires ?
Alors à ce niveau-là, je suis peut-être pas une très bonne élève, parce que maintenant, depuis que je suis publiée, je rencontre beaucoup d'auteurs de fantasy notamment, et je vois la façon dont ils travaillent sur leurs univers. Ça me fait un petit peu honte, parce que je réalise à quel point eux, ils ont vraiment développé, ils ont parfois des encyclopédies de leur propre univers, alors que moi, pas du tout. Moi, j'écris beaucoup de façon très instinctive. Alors, dans mes fantaisies à moi, généralement, je me nourris beaucoup de notre monde à nous, c'est juste que j'ai tendance à tout mélanger. Je mélange beaucoup les temporalités, les géographies, donc je puise dans notre réel, mais en mélangeant. Et généralement, la seule chose à laquelle je veille, c'est qu'il n'y ait pas d'incohérence, parce que ça, c'est un peu le piège qu'on commence à créer, on va dire, un univers qui a ses propres lois, ses propres spécificités, notamment lorsqu'il y a une dimension un peu des pouvoirs, des capacités avec des règles, des modes de fonctionnement. Après, il faut être assez rigoureux, c'est surtout ça, c'est que le problème, c'est pas tant d'avoir... Généralement, les idées, moi, elles me viennent assez vite, mais c'est surtout, il faut qu'il n'y ait pas une contradiction quelque part. Donc, si j'ai établi que dans mon univers, ça, c'est absolument impossible, il ne faut pas que ça se produise trois pas plus loin. Donc, là, généralement, ma méthode, c'est les post-it. C'est juste que lorsque j'ai établi, il y a telle règle qui existe dans l'univers, hop, post-it. Et régulièrement, lorsque j'écris, je garde un œil sur les post-it pour vérifier que je suis bien OK par rapport aux différentes choses. Et puis voilà, ça me suffit. Et comme je ne suis pas du tout... En fait, je suis une très mauvaise archiviste. Le peu de notes que j'ai, je les détruis après coup.
C'est vrai.
Je supprime tout. Ce qui fait que, des années après, on me dit « Ah, j'aimerais beaucoup jeter un œil à vos notes pour voir comment vous fonctionnez et tout. » Mais j'ai rien à produire parce que j'ai tout supprimé.
Ah ouais. Pourquoi vous les effacez comme ça ?
Parce que pour moi, tout est dans le texte. Et que ce qui n'est pas dans le texte, ça n'existe pas.
Par rapport à la création de personnages, est-ce que vous utilisez des fiches de personnages ou est-ce que vous avez votre propre manière pour les créer ? Comment vous faites ça ?
J'ai tenté à une époque de me dire, tiens, est-ce que je ne ferais pas des fiches personnages ? Et ça ne marche pas du tout sur moi. Ce qui se passe, avant même de commencer à écrire le début de l'histoire, je rentre en dialogue avec les personnages. Donc je vais avoir un moment, privilégié, où je vais discuter à voix haute avec le personnage, et je vais commencer à voir son histoire, son passé, ce par quoi il est passé avant d'en être là, et qu'est-ce qui va un petit peu certainement déterminer sa trajectoire. Il va avoir ses propres besoins, sa propre quête de sens. Et généralement, à partir du moment où j'ai ça, le reste, j'ai pas besoin de connaître tous les détails. Pour moi, l'essentiel est déjà formulé. Et à partir de là, je le propulse dans l'histoire et je me dis, allons-y, camarades. Et c'est généralement au fur et à mesure que je vais écrire avec les personnages que je vais les voir évoluer et je vais de plus en plus les cerner au fur et à mesure. Généralement, après, je les découvre au fur et à mesure que j'écris. Et souvent, même, il y a des trucs, ils me surprennent. Je me dis, ça, je n'ai pas du tout vu venir. Hein. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Quoi. Par contre, j'ai vraiment besoin de cerner leur essentiel. C'est qu'est-ce qui donne du sens, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver de sens à ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et pourquoi ils prennent les décisions qu'ils prennent. Quoi.
Et quand vous faites ces discussions avec les personnages, vous prenez des notes quand même ?
Alors, généralement, j'ai un moment où non. Très souvent, c'est la nuit, quand je suis vraiment dans ce processus, que toute l'histoire commence un peu à grandir, généralement, je ne dors pas très bien pendant ces phases-là, parce que pendant la nuit, je me réveille à 3h du matin, et ça y est, je suis avec le personnage, et je commence à le voir, et je le vois vivre des scènes, et j'adore. C'est juste que je ne dors pas bien du tout, parce que ça me fait des mini-nuits. Après, une fois que je commence à avoir pas mal d'éléments, je les note quand même par écrit pour pas oublier, mais c'est vraiment un gros bazar. Hein. Mes notes, c'est pas du tout structuré. C'est vraiment, je jette des trucs, je dis voilà. Mais parfois, c'est un truc tout bête, je veux juste une ligne pour dire, au fait, le personnage, il est végétarien, et puis je passe à autre chose, et puis papapa. Et une fois que je commence à écrire, généralement, j'ai en tête à peu près tout, mais ça arrive que j'oublie. Hein. Parfois, il y a des choses que j'ai... Il y a eu des idées que j'ai au départ, je ne pense pas du tout à les consulter au moment où j'écris, et c'est parfois à la fin des soirs, je me dis, mince, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça que j'avais évoqué, finalement, que je n'ai pas abordé du tout avec le personnage.
Et à ce moment-là, est-ce que vous essayez de changer un peu et de le remettre ou pas du tout ?
Non, si je vois que l'histoire, elle tient très bien, mais je dis, c'est juste que ça ne devait pas être aussi important que ça.
Ok. Et puis peut-être qu'inconsciemment, les idées, elles vous ont quand même inspiré sur d'autres.
Ça, c'est très possible aussi. Et c'est parfois ce qui peut arriver, c'est qu'on donne trop de caractéristiques à un seul personnage, ou on va dire trop d'enjeux, on va dire, d'enjeux différents, alors que l'enjeu, il peut être incarné par un autre personnage de l'histoire. Mm-mm. Donc parfois, ça se répartit différemment, ce ne sera pas forcément ce personnage-là qui va porter cette partie-là de l'histoire.
Mm-mm. Ah ben bah, ça se voit dans la passe miroir, hein, parce que tous les personnages sont tellement, enfin, ils sont tellement complets. Et même s'il y en a qu'on peut voir ailleurs, des personnages comme ça, mais jamais aussi profonds, jamais aussi avec autant de contraste, en fait. Et ça que moi, j'ai adoré dans cette histoire.
Je suis très touchée. je leur transmettrai de ta part.
Merci. Surtout à Thorne, mon préféré.
Je les transmettrai.
Il y avait quelqu'un qui demandait s'il y aurait une suite à La Passe Miroir du point de vue de Thorne, et vous disiez non et que vous vous infligeriez pas ça, en fait, d'être dans sa tête toute la journée. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans la tête des personnages, de leur créer leur personnalité, histoire, passé, futur, etc. Est-ce que ça vous impacte, vous, personnellement?
Alors oui, juste pour rebondir sur la toute première partie, non, je confirme que écrire une histoire intégralement du point de vue de Thorne, je ne souhaite ça à personne, parce que vraiment, il donne très très mal à la tête.
Je pense bien.
J'avais déjà tenté d'écrire des chapitres de son point de vue, c'était une expérience très intéressante, mais voilà, je me suis dit, une histoire complète, non. mais ceci étant, lorsque j'avais terminé la passe miroir, je sais que je me souviens encore que mon conjoint m'avait dit « Laisse-toi une porte ouverte. Si jamais un jour tu veux revenir dans l'univers, ne te ferme pas. » Et ça, c'est vraiment quelque chose, je me suis dit « Il a raison. » Et quand j'ai terminé la conclusion de la passe miroir, je me suis laissé la possibilité de me dire peut-être qu'un jour, je voudrais revenir dans l'univers. Mais pas du point de vue de Thorne. Je ne vais pas raconter la même histoire du point de vue du personnage de Thorne. Je me suis dit « Ça ne m'intéresse pas du tout. » Après, alors forcément, d'avoir des personnages, en fait, c'est des âmes qui nous habitent. Et lorsqu'on est en plein processus d'écriture, ça, je pense que c'est pareil avec beaucoup d'auteurs, on est vraiment très hanté. Ils nous habitent. Vraiment, on a l'illusion comme ça qu'on est tout seul, mais en fait, on n'est pas seul du tout. Et voilà, il y a toujours quelqu'un avec qui on est un peu en dialogue en arrière-plan. Donc, généralement, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont là, toujours un peu en arrière-plan. Et pour autant, c'est plus ça crée, on va dire, ça crée un climat, ça crée une atmosphère, mais pour autant, ça va pas déterminer mes actions. Je suis pas en train de me dire, tiens, mes personnages me jugent, par exemple, ça se produit jamais, hein. Je suis jamais en train de me dire, tiens, telle action que je fais, mon personnage n'approuverait pas. Alors Dieu merci, parce que je pense que Thorne, il y a des tonnes de choses qu'il n'aimerait pas dans ma vie, à commencer par le désordre dans lequel je vis. Ça, je pense qu'il vivrait très très mal.
Par les notes.
Donc non, je suis pas obsédée par mes personnages, ça c'est sûr. Ils font partie de moi, mais c'est comme une sorte de colocation où voilà, chacun vient un peu de son côté. Mais par contre, il y a beaucoup de... alors ça, c'est surtout au niveau de l'écriture, il y a beaucoup de passerelles qui se font entre moi et eux, des choses que je vis qui vont se répercuter sur eux. Je leur présente toutes mes excuses parce que c'est pas forcément les choses les plus joyeuses. Et mais inversement, je veux dire, il y a des choses qui vivent eux et moi, ça m'apporte beaucoup d'éclairage sur ma vie à moi. Donc ça, je sais que ça l'a fait très très fort avec la passe miroir, avec Ophélie en particulier.
Mm-hmm. Okay.
On a vraiment vécu toutes les deux en parallèle nos vies et en même temps, il y a eu des moments de passerelles où voilà, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup inspirée pour ma vie à moi et des choses que j'ai vécues qui, je pense, se sont fortement répercutées sur sa vie à elle.
Combien de temps prenez-vous pour créer l'architecture d'une histoire?
Je dirais 2-3 semaines.
Oh, waouh. Ça me paraît hyper rapide.
Ben, c'est parce qu'après, j'ai trop envie d'écrire. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ben voilà, ça suffit maintenant. On a assez mentalisé, il faut que ça se vive, quoi.
Avez-vous une routine d'écriture?
Alors, pas spécialement une routine, mais généralement, je n'arrive à bien écrire que dans mon canapé. Et généralement, j'ai un chair ou deux à côté de moi. Et c'est tout, quoi. Après, j'ai pas besoin de... Ça peut être à n'importe quelle heure de la journée, j'ai pas de conditions préalables, pas de rituel particulier. Avoir un peu de musique, ça peut aider parfois pour certaines scènes. J'ai des playlists musicales qui crée des ambiances. Donc parfois, j'aime bien me mettre de la musique, mais écrire dans le silence, ça me va très bien aussi.
La prochaine question, c'était est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous écrivez?
Ah, ben voilà, j'anticipe.
Eh ouais, vraiment, une devinette.
Donc, c'est pour boucler la boucle par rapport à tout à l'heure. Je ne suis pas musicienne, mais je suis mélomane. Donc oui, j'ai quand même des ambiances musicales qui m'accompagnent. Là, j'ai ma bibliothèque musicale et je me suis créé des playlists. Généralement, c'est très majoritairement quand même des bandes-sons de films, de dessins animés, de jeux vidéo.
Ok.
C'est très, très majoritairement ça quand même.
Et lesquels, par exemple?
Oula, alors c'est assez varié. Bah là, j'ai beaucoup apprécié, c'est la bande son de Is Dark Materials, la bande son de Inception.
Oui.
Ça aussi, je la trouve très intéressante. Elle crée une ambiance très très forte et très immédiate. Dans les domaines des animes, il y a Full Metal Alchemist, Vision d'Escaflowne. Alors c'est des vieux, hein, c'est des vieux titres, mais les bandes son marchent toujours très très bien sur moi. Il y a aussi des jeux vidéo, Everybody is Gone with the Rapture, je crois que c'est un truc comme ça, et la bande-son est magnifique. Donc voilà, généralement, c'est souvent des œuvres que j'ai vues, et du coup j'associe ça à des émotions que j'ai vécues au moment où j'ai une expérience en tant que spectatrice. Je me rappelle donc de cette émotion-là, et je l'associe dans l'écriture. Je lance, la musique, et ça crée tout de suite en moi une émotion immédiate. Et je fais une association d'émotions pour ma propre après scène à écrire. Donc la page blanche à proprement parler, c'est vraiment quand on n'a pas d'idée. Ça, c'est rare. Parce que généralement, les idées, c'est pas trop le problème. Souvent, le problème, c'est de les incarner dans le texte. Bon, après, peut-être que si tu me reposes la question dans quelques années, peut-être qu'un jour, je vais te dire, ça y est, j'ai fait l'expérience de la page blanche, donc maintenant, je sais vraiment ce que c'est. Mais pour le moment, voilà, je touche du bois, mais les idées, j'en ai toujours une en cours, quoi. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un projet qui m'habite et je n'ai pas de moment de vide.
Okay.
Mais voilà, par contre, c'est la mise en mots qui peut parfois poser un peu problème. Et dans ce cas-là, c'est ce que je disais, c'est soit se changer les idées, soit faire l'auto-brainstorming. Généralement, c'est ça qui, chez moi, fonctionne bien.
Ok. Est-ce qu'à la base, vous êtes très à l'aise avec l'orthographe et la grammaire, ou est-ce que c'est les réécritures, relectures et bêta-lectures qui s'occupent de retravailler le texte?
Ah, ça, c'est une question qu'on me pose pas souvent. Alors bon, moi, j'ai quand même eu la chance, comme je suis quand même dans une famille qui est assez lettrée, il faut quand même le dire. Enfin, j'ai vraiment grandi au milieu des livres. J'ai plutôt eu cette chance-là de ne pas avoir trop de difficultés dans l'apprentissage du français. Et bon, ça ne veut pas dire que j'avais un français irréprochable, mais on va dire, je maîtrisais, on va dire, les fondamentaux. J'ai fait beaucoup de progrès en écrivant. Et par contre, moi, ce qui me faisait beaucoup défaut, c'était le vocabulaire.
Okay.
J'avais beaucoup de mal à trouver le mot juste. Donc, ce que j'ai découvert, c'est cet instrument magique qui est le dictionnaire des synonymes.
Ouais.
Et qui m'a ouvert des portes, j'ai dit, waouh, je savais pas qu'on pouvait. Alors, attention que c'est un peu aussi piégeux, parce que la synonymie n'existe pas. En ce sens qu'un mot n'est jamais absolument équivalent à un autre. Il y a toujours une nuance de sens, il faut la connaître.
Par rapport à la passe miroir, depuis combien de temps est-ce que l'idée de cette histoire, elle était en vous? Par exemple, moi je sais que j'ai une histoire en tête depuis mes 14 ans. Et elle vit toujours en moi, et de temps en temps, je note des trucs, mais voilà.
Oh, mais c'est adorable. Ah oui, donc c'est vraiment les idées qui nous habitent depuis l'aube des temps, qui ont grandi avec nous. Ben, je n'ai pas connu ça, parce que moi, par exemple, la passe miroir, l'idée m'est venue, c'était l'été 2007, hein, et je me suis mise à écrire 3 semaines après. Je veux dire, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai commencé à travailler dessus, voilà, c'était,
ah oui, ça a
c'était
été
presque
très
instantané.
Rapide.
Donc moi généralement quand j'ai une idée, l'acte suit de peu après quoi. Il faut que ça s'écrive.
Est-ce que vous utilisez l'écriture sous une autre forme, comme par exemple des chansons, des podcasts, des pièces de théâtre, un journal intime, n'importe quoi? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'était plutôt le contraire, c'est que il y avait des formes d'écriture qui existaient chez moi avant que je commence l'écriture sous forme de roman. Et qui ont disparu du coup depuis que je me suis mise dans les romans. Donc avant, je tenais toujours un journal. Typiquement, j'avais toujours une sorte de journal intime en cours. Mmh. Et ça a complètement, c'est une pratique qui a complètement disparu avec l'écriture. J'en ressens plus du tout le besoin.
D'accord. Parce qu'en fait, en soi, c'est vrai que l'écriture, de toute manière, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez beaucoup de la mémoire ou alors de, par exemple, par rapport à Ophélie, à l'apparence. C'est quelque part, même si c'est pas vraiment un journal intime, ça aide quand même à exorciser un peu ces...
Ça permet d'aller directement dans le vif du sujet, d'aborder le problème. Et moi, je comprends. Moi, je sais ce qui se vit dans le roman moment où j'écris. C'est symbolisé, mais au final, je me rends compte que parfois, ça marche beaucoup plus efficacement que de, dans un journal, commencer à analyser et raconter juste en boucle la même chose. Et parfois, je me suis rendu compte, j'ai relu de mes journaux il y a un moment donné. Je me suis dit, waouh, mais pendant 10 ans, en fait, je raconte la même chose. J'ai toujours l'impression que je revis c'est une situation nouvelle et inédite, mais en fait, pas du tout. C'est une récurrence.
Ok.
Et là, c'est intéressant de voir la récurrence. Généralement, lorsqu'elle est affrontée dans l'écriture, il faut le sentir, ça traverse le corps. Parce que si c'est. Il faut qu'il y ait un vécu émotionnel. Mais ça, je sais que je l'ai ressenti très fort dans la passe miroir. J'ai senti des choses qui ont beaucoup bougé sur le plan émotionnel. Généralement, quand c'est le corps a pu, on va dire, purger quelque chose émotionnellement, généralement après, c'est réglé, quoi.
Bah, ça se rejoint un peu quelque part, et c'est vrai que les problèmes de récurrence dans les journaux intimes...
On les connaît, on a tous nos récurrences.
On les connaît.
J'en suis encore là, non.
Oh non, moi qui croyais avoir avancé.
Exactement.
Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Moi, mon journal intime... voilà.
On a les mêmes.
C'est possible. Et du coup, quand vous écriviez dans votre journal intime, est-ce que ça vous soulageait ? Est-ce que c'était pour une raison en particulier ?
Ça me soulageait immédiatement. Généralement, j'écrivais sous le coup d'une émotion très négative. Généralement, il y avait un mal-être. Et généralement, une fois que j'avais pu exprimer, verbaliser la chose à travers l'écrit, à la fin, j'ai senti comme si un truc qui m'avait quitté, mais ça ne réglait pas forcément le problème à la racine. Mais on va dire que ça faisait toujours un soulagement immédiat.
Ok, parce que du coup, c'est un des sujets de cette chronique d'écriture dans la globalité, c'est les journaux intimes, donc très bien.
Ah bah c'est très intéressant.
Mais en plus, j'ai déjà eu quelques témoignages, c'est revenu quelques fois, la peur d'oublier. Et moi, c'est pas... Moi, je sais que quand j'écris dans mes journaux intimes quelque chose qui s'est passé, c'est vrai que c'est pour plus tard les relire et revivre le truc, mais c'est pas par peur d'oublier. Et je m'étais jamais posé cette question de peur de l'oubli.
Le moment, c'est un peu comme c'est un peu comme les personnes qui font des photographies peut-être.
Oui, oui, oui.
Et de dire c'est pour immortaliser l'instant quelque part peut-être.
Ouais, bah sûrement.
Ah, ça peut être très très intéressant d'aller explorer ça.
Ouais, ouais. Mais moi c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose auquel j'avais pensé et je trouve ça passionnant. Est-ce que vous avez des conseils d'écriture à nous transmettre?
Alors, comme chez moi, généralement, ça fonctionne énormément à l'instinct. Ça, je pense qu'on s'en est un petit peu rendu compte. Je fais pas énormément de recherches, j'ai pas beaucoup de techniques à proprement parler. J'écoute beaucoup au niveau de l'instinct. Donc, généralement, moi, le conseil que je donne toujours, parce que c'est celui que mon propre conjoint m'a donné lorsque j'ai appris que j'allais être publiée et que je me suis prise une petite panique. Il m'a dit, écoute, quoi qu'il arrive, le plaisir doit toujours rester au centre de l'acte d'écrire. C'est ta boussole, et la boussole, elle pointe vers le plaisir. Si un jour tu te surprends à ne plus éprouver de plaisir à écrire, c'est qu'il est temps de changer quelque chose. Mais c'est le plus important. Et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, parce que généralement, ça fait un indicateur chez moi, c'est que lorsque je me surprends à ne pas éprouver de plaisir dans ce que je fais, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Généralement, le plaisir, ça, tout dépend ce qu'on met derrière le mot, mais généralement, c'est une sorte de vibration intérieure. On sent qu'on vibre, qu'il y a quelque chose qui ça fait une sorte d'ouverture au niveau du cœur. Et généralement, si ça ne ressent pas ça, c'est que peut-être qu'on n'est pas en train d'écrire la bonne histoire ou pas la bonne façon de l'amener, ou il y a un truc qu'on tape à côté, quoi. On n'est pas en train de taper sur là où vraiment ça a envie, quoi, de se raconter, quoi. Donc, ça, c'est un très bon indicateur pour savoir si on est bien en phase avec soi-même et qu'on n'est pas en train aussi d'écrire une histoire qui répond aux attentes des autres.
Mm-mm.
Parce que ça peut être aussi un piège, c'est de vouloir écrire une histoire qui va plaire aux autres. Ça, voilà, il faut être très, très à l'écoute de soi, finalement. Qu'est-ce que soit déjà, on est son propre lecteur, son premier lecteur, mais voilà, qu'est-ce que soit, on a très, très, on a l'élan vraiment de raconter et quelque chose qui sera fondamentalement personnel.
comme vous dites, c'est fondamental. C'est de base, l'écriture, c'est une passion. Si ça vous passionne plus, faites attention à ce que vous êtes en train de faire.
Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier de m'avoir permis de m'exprimer. J'ai trouvé des questions vraiment intéressantes et stimulantes. Ça me donne envie d'écrire là maintenant tout de suite.
Ah, trop bien. Ça me fait très très plaisir. Alors, je rappelle que le prochain livre de Christelle Dabos, Nous, sortira le 7 novembre aux éditions Gallimard Jeunesse, toujours. Hein, c'est votre maison d'édition.
Oui, c'est toujours.
Voilà. très bien. Et donc, notez la date dans vos agendas, parce que moi, j'ai très hâte, en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions sur l'écriture. Ça vous avez apporté vraiment beaucoup de profondeur à plein de questions qui m'intéressaient déjà et d'autres auxquelles je n'avais pas du tout pensé, alors c'est parfait. Christelle Dabos nous quitte pour cette chronique d'écriture, mais par contre, moi, je vais tout de suite continuer avec une interview complète que vous pourrez écouter plus tard. Et donc, merci beaucoup, Christelle Dabos.
Avec plaisir, un grand merci.